Bonjour Monsieur H.
Monsieur H, bonjour les amis.
Bonjour. On t'avait eu il
Comment?
y a une dizaine de jours
C'est ça, oui.
tu nous avais fait un petit point sur la situation. Alors c'est bien de nous rappeler peut-être si beaucoup de choses ont évolué aujourd'hui au niveau des masques, des tests, des gants, etc. Parce que nous, dans la région, on a reçu des coups de téléphone d'EHPAD qui sont en manque de tout ça. Et au début, on en a eu un, puis là, on en est à trois EHPAD du coin qui manquent de gants, de surblouses, de masques, etc. Donc, on voulait savoir un peu dans les hôpitaux où ça en était. Et voilà, si tu peux nous dire.
Oui, et bien, pour ce qui nous concerne, nous, au CHU Forêt, au niveau matériel, on a eu une petite période où il manquait des surblouses et ça s'est réglé un petit peu au fil de l'eau, j'allais dire. On a eu des dons d'entreprises, des fabrications qui ont été faites par des collectifs aussi. Et ça nous a permis un peu de gérer la situation et de maintenir la situation. Et au niveau des masques, des gants, on n'a pas trop de problèmes non plus, ni au niveau du gel hydroalcoolique. Par contre, le problème qu'on a, c'est plus sur les dépistages, effectivement. Mais là, ça relève de la politique nationale aussi, puisque on sait qu'on a ce problème de ne pas pouvoir fabriquer les tests en France. Et donc, vu que tout le monde demande des tests, forcément, ça devient compliqué après, pour qu'on puisse nous en avoir. Mais néanmoins, on a eu quand même une évolution, c'est-à-dire que on n'a plus des cas d'agents qu'on renvoie chez eux parce qu'ils ont eu des symptômes, tant qu'on les ait dépistés, parce que ça a pu arriver aussi. Et nous, ça posait tout un problème déjà pour la reconnaissance en maladie professionnelle, d'une part, et puis aussi pour savoir réellement si les gens avaient eu le Covid, étaient immunisés ou pas, pour avoir une stratégie après aussi pour sortir de cette crise. Et donc là, ça c'est encore un peu compliqué, quoi. La stratégie d'équipement est un enjeu primordial d'ailleurs dans la suite. Puisque nous, pour l'instant, d'un point de vue sanitaire, on va dire que la situation s'est stabilisée. On n'a jamais eu beaucoup d'entrées, enfin, on n'a pas eu un afflux vraiment important, ingérable, ça s'est fait au fil de l'eau là aussi. On a eu nos lits de réanimation qui ont été bien occupés par contre. Et puis bien sûr, la lourdeur des soins, c'est-à-dire voilà, il faut doubler les équipes quasiment dans certains services Covid, puisque il faut mettre des mesures de protection très importantes pour aller soigner les patients. Et donc ça demande beaucoup de temps et d'énergie de la part du personnel soignant. Et donc voilà, c'est gérable, qu'on va dire, mais avec des équipes qui sont quand même très sollicitées.
À bout de souffle.
Et j'imagine même les régions qui ont vécu vraiment un afflux beaucoup plus important que nous, la situation qu'ils ont dû avoir à gérer, quoi. Ça devait être terrible.
Oui, on avait eu quelques échos de certains médecins proches de grandes villes qui disaient que c'était insupportable de devoir choisir lequel on allait soigner et sauver, et potentiellement
Oui.
sauver et pas. Ça doit être. Quand on a fait le choix de faire cette profession, c'est pas pour faire du tri en fonction des moyens, quoi. Mais bon, il faut dire que les
Non.
moyens, il y avait eu Sarko qui avait supprimé 46 500 lits. Hollande avait réussi encore à en enlever 17 500. Macron a mis mandat, je crois qu'il en est déjà à 4 170 d'enlevés. Il avait fait beaucoup de promesses quand il avait demandé aux gens de se confiner. Et notamment avec la recherche, etc. Mais là, d'entrée de jeu, là, il y a une dizaine de jours, on a eu une brève qui disait que le budget de la recherche allait être baissé lors d'une visite qu'il avait faite à l'Institut Pasteur. Enfin bon, je crois qu'il n'a pas encore tout à fait tout compris, mais on va lui rappeler quand on sortira de ce confinement.
Oui, eh bien, en plus, ce que tu dis, c'est très important. Je reviens sur ce que tu disais sur le choix, justement, des personnes qu'on réanime ou pas. C'est des choses qui existent déjà depuis un certain moment, mais bon, j'allais dire, beaucoup moins exposées qu'aujourd'hui, en pleine crise. Et pour les personnels qui ne sont pas vraiment formés à cela, en fait, peut-être que justement, on a laissé tomber un peu notre service public. Et que on valorise pas suffisamment le travail et la qualification des agents, en fait, pour pouvoir justement capable de supporter, j'allais dire, ces contre-temps, si on peut appeler ça des contre-temps. Et là, c'est quelque chose qui est ressorti. On m'a fait remonter justement sur les pannes. On a des services, effectivement, où nous, on sait, sur une décision médicale partagée, souvent avec la famille aussi, hein, c'est-à-dire qu'on sait déjà que la personne qui est en soins à l'hôpital ne désire pas être réanimée en cas où son cas dégénérerait, quoi. Mais forcément, quand il y a des virus comme ça, ben ça explose, quoi. Le nombre de cas et le nombre de choix qu'on doit faire. Et donc, pour une aide-soignante, pour un infirmier, pour une ASH, même qui va le savoir dans son service et tout, ça peut être choquant, quoi. Elle peut avoir l'impression que, voilà, qu'on décide de ne pas soigner des gens. Et c'est pour ça que ça nécessite, comme tu le disais aussi, de revoir la stratégie soi-disant économique qui vise à réduire les dépenses de santé et à réduire d'autant les services, et les services de réanimation en particulier. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que la dernière fois, je disais dans l'émission que nous, on avait obtenu de nouveau l'autorisation des lits de réanimation sur le site de Montbrison jusqu'au 31 octobre, a priori. Mais j'invite tout le monde dans mon établissement à se battre pour qu'on garde un vrai service de réanimation. Évidemment, à hauteur des besoins que représente notre territoire, hein, on ne veut pas un service de 200 lits de réanimation, bien évidemment. Mais de là à ne plus en avoir du tout, nous, sur le forêt, sur notre territoire, je pense que ça pourrait être bienvenu. Et sachant que, comme je te dis, dans la vie de tous les jours, il arrive souvent aussi qu'on en soit obligé de faire le choix entre un accidenté de la route et une mamie qui est très âgée, et voilà, que finalement, il n'y a qu'un lit de réanimation disponible. Et voilà, quoi.
Tu as dit qu'ils avaient autorisé une ouverture de lits supplémentaires, mais je voulais savoir, est-ce que le personnel, il y a eu du personnel embauché pour aller avec les gens, avec les lits qu'ils ouvrent?
Eh bien là, en fait, oui, justement, on a rappelé du personnel, de toute façon, puisque après, ce qu'on peut retenir d'ailleurs de cette crise, c'est par contre la capacité qu'on a eue à s'adapter. Et même dans la configuration du manque de lits de réanimation en France, c'est vrai qu'on peut quand même montrer et être content du fait qu'on a pu doubler quasiment la capacité des lits de réanimation sur le territoire au prix d'une réorganisation. En fait, voilà, grâce au confinement aussi et à la réduction des activités qu'il y avait à côté, de consultation et de chirurgie programmée, on a pu justement redéployer des moyens ailleurs et reprendre des personnels. Après, on n'a pas forcément embauché des personnels en plus, on a juste redéployé du personnel sur les lits ouverts.
D'accord. On a déshabillé Paul pour habiller Pierre, c'est ça?
En quelque sorte, oui. Mais c'est pour ça que nous, on n'était pas du tout contents de la gestion et de la stratégie en début de crise, où on a sollicité rapidement beaucoup de personnel. Et en n'anticipant pas que quand on va reprendre une activité normale de partout, c'est-à-dire les consultations, la chirurgie, les mêmes personnels vont être de nouveau sollicités. C'est-à-dire, à un moment, il faut qu'on trouve le moyen de les reposer quand on peut. Et moi, je me souviens du début de la crise, même si effectivement, on avait besoin de doubler des équipes parfois pour faire les soins, on aurait pu épargner peut-être un peu plus de gens, les mettre en autorisation spéciale d'absence, pour pouvoir compter sur eux plus tard, en fait. Et ça, ça n'a pas été du tout compris par la direction, qui voyait plutôt dans le sens qu'on ne va pas payer des gens à rien faire. Alors que non, ce n'est pas du tout la stratégie. On a eu le même problème sur les services administratifs, où on aurait pu renvoyer des gens chez eux puisqu'ils n'étaient pas indispensables aux soins. Et la réflexion était un peu la même, de dire, mais attendez, on ne va pas renvoyer des gens chez eux payés à ne rien faire. Alors que quand même, non seulement ils ne consommaient pas de masque, justement, c'était utile pour l'établissement, ils évitaient une éventuelle contamination dans l'hôpital et chez eux, du coup. Donc voilà. Et d'ailleurs, on a le même problème avec l'histoire de la prime. Moi, je suis content d'en parler aujourd'hui aussi, puisqu'on nous annonce une prime pour les soignants. Mais voilà, c'est pas du tout la chose qu'il faut faire.
Oui,
sinon, ça va créer des injustices.
Oui, on avait eu un coup de gueule d'une infirmière justement par rapport à cette prime, et elle répétait que La prime, elle n'en voulait pas. Ce qu'elle voulait, c'est pouvoir faire son métier dignement, c'est-à-dire avoir du temps pour s'occuper des gens quand elle rentre chez elle, avoir la satisfaction d'avoir bien fait son boulot, alors que là, elle est chronométrée, les patients sont plus des patients, mais des clients, et donc tout ça, elle n'en voulait pas. Elle voulait. Je me rappelle. Tu te rappelles
Une augmentation de salaire plus que la prime des 500 euros, elle parlait beaucoup de ça.
Oui, elle
Ben
parlait.
oui, c'est ça.
Ouais.
Oui, et elle voulait également plus de moyens pour l'hôpital, quoi. C'était faire son boulot dignement, c'était comme ça, quoi.
Après, nous aussi, hein, c'est ce qu'on demande. Parce que justement, comment identifier aujourd'hui certains qui seraient plus méritants que d'autres? Moi, je veux bien reconnaître que les soignants qui soignent les patients directement dans les chambres sont très exposés, mais on ne peut pas non plus oublier les gens de la blanchisserie, de la restauration, enfin, des services techniques.
Le ménage et tout ça.
Et si on veut justement avoir une justice par rapport à ça, et bien en fait, il y a une chose toute simple à faire, c'est qu'on augmente ce point d'indice. C'est-à-dire, on augmente les salaires tout en respectant le grade et la qualification de l'agent, et donc une augmentation à hauteur de ces qualifications. Et là, c'est un peu la carotte, et ça, c'est vrai qu'effectivement, ça énerve beaucoup de gens, parce que ça veut dire un peu comme quelqu'un qui élèverait mal son gamin pendant des années, et puis le jour où il fait une grosse connerie, il lui met une bonne rouste, en fait, en disant, ben, vous voyez, je suis là, hein. Et ben non, 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 l'éducation, c'est tout le temps, et là, pour l'hôpital public, les moyens, c'est tout le temps, et pas quand on est dans la merde qu'on nous donne une petite friandise.
Oui, tu avais autre chose à nous dire. Sinon, on voulait savoir, tu as dit que toi, dans ton hôpital, il n'y avait pas eu trop de rush, enfin, si on peut dire comme ça, il n'y a pas eu trop de monde d'un coup qui est arrivé, c'est ça? C'est ce que tu nous as dit,
Non,
non?
non, 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 on a eu la situation à l'inverse au début de la crise très calme, justement, du fait qu'on avait annulé beaucoup de consultations et d'hospitalisations. Donc, ça nous a permis d'organiser nos services pour pouvoir accueillir les patients Covid. Et en fait, alors moi, sur le site de Feur, vraiment, c'était vraiment gérable, hein, effectivement. On n'a pas fait des entrées. Mais par contre, après, sur Montbrison, vu qu'on avait des lits de réanimation, on a rempli quand même assez rapidement tous nos services Covid et on a dû déployer un petit peu plus, mais rien de comparable avec ce qu'on a entendu d'autres régions. Et par contre, avec un taux, c'est toujours pareil. Sur l'état clinique en lui-même, je dirais, quand même pas mal de décès et des choses qui sont assez incompréhensibles parfois pour les médecins, pour le corps médical, c'est-à-dire de l'évolution du virus en lui-même, des tableaux cliniques, comme on dit en fait. C'est-à-dire qu'on a du mal à identifier les cas qui risquent de dégénérer et ceux qui se remettent, en fait. On a un peu du mal à identifier tout ça. Donc c'est un peu c'est inquiétant dans la suite de la stratégie d'ailleurs, puisque les dernières discussions moi, que j'ai vues avec certains médecins, c'était aussi, on se demande si la maladie est immunisante, puisque il y a des cas de personnes qui l'ont eu deux fois, en fait. Donc c'est beaucoup d'interrogations.
Et qu'est-ce que tu penses de ce que nous a fait cette belle déclaration-là, comme quoi les écoles allaient réouvrir en partie le 11, comme ça, c'est sur quelle base, on ne sait pas, on sait juste qu'il l'a décidé tout seul, puisqu'apparemment même son copain Edouard Philippe et Blanquet ont été prévenus seulement 15 minutes avant qu'il le déclare publiquement, donc on ne sait pas avec qui il prend ses décisions, mais enfin il les prend, en tout cas il les annonce après. À nous de voir si on va les suivre ou pas, mais je voulais avoir un peu ton avis, savoir ce que tu pensais d'un déconfinement comme ça, annoncé comme ça.
Ben moi, ça m'interroge beaucoup, encore une fois, effectivement, comme beaucoup de personnes. Après, forcément, j'ai pas des éléments de recherche, je suis pas scientifique, mais il me semblait qu'au départ de la maladie, on disait que les enfants étaient des porteurs sains, qui avaient peu de symptômes, mais qui étaient quand même certainement très contaminants. Là, dernièrement, j'ai lu un article qui disait que finalement, ils sont peut-être pas aussi contaminants que ça, mais n'empêche que le fait de réouvrir les écoles, on prend un risque considérable, parce que ça veut dire on ne va pas pouvoir faire respecter à des enfants des gestes barrières, du lavage de mains. Moi, j'en ai discuté avec ma petite sœur, en fait, puisque j'ai deux neveux, justement, qui sont à l'école. Et ma petite sœur me disait qu'elle avait discuté avec une maîtresse. Elle me dit, mais sinon, je deviens folle. La maîtresse, elle devient folle. Parce qu'après, c'est oui, tu as le droit de prêter le stylo à ton petit voisin. Mais par contre, il faut que tu te laves les mains. Ça, c'est plus possible, quoi. On peut pas gérer ça.
Et, surtout...
et ça veut dire. Et en plus, elle me disait, par exemple, elle aura le problème, si elle reprend le travail dans le même temps, de devoir laisser les enfants aux grands-parents. Et donc, ça veut dire que, vu qu'on ne sait pas comment évolue le virus, on reprend le risque d'aller recontaminer de nouveau des personnes et de repartir sur un engorgement de notre système hospitalier. Et donc, après, c'est en lien avec la stratégie du dépistage, mais là aussi, moi, je n'ai pas vraiment une vision très claire de ce qu'ils proposent, puisque le but, ce serait justement de tester un maximum de gens pour savoir comment, qui est potentiellement contaminant, et qui est potentiellement guéri, et avoir une vision de ça. Ne serait-ce qu'à commencer dans les hôpitaux, parce que nous, dans notre propre hôpital, on n'est pas encore en mesure de dire il y a tant de personnes qui l'ont eu, qui sont guéries, d'autres qui doivent être dépistées. Enfin, et le mieux, ce serait de pouvoir, comme ils font à Marseille, même si je comprends que c'est polémique, hein, ce qu'ils font à Marseille, mais de se dire, à un moment donné, on dépiste tout le monde, et au moins, on a une vision, on peut faire une analyse précise des choses. Et là, c'est ce qui inquiète un peu, c'est qu'on avance sans vraiment savoir, quoi. Donc, et ce serait dommage d'avoir gâché, d'avoir pris 2 mois de confinement dans la tête, j'allais dire, pour repartir.
À zéro, oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Et sinon, tu nous parlais de Marseille, tu sais, parce que, en fait, visiblement, à cause d'une attaque de hackers, on n'arrive pas à avoir les données précises du nombre de personnes contaminé, du nombre de décès, etc. Tu as des informations pour savoir si cette région est plus épargnée qu'une autre, ou enfin plus épargnée, je veux dire guérit mieux qu'une autre ou pas?
Non, de mon côté, non. Je n'ai pas d'informations là.
D'accord. Et tu as des toujours, hein, c'est juste que on pose des questions comme tu es un petit peu plus au courant sans doute que nous. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ce qui se passe en France, Italie, Espagne, avec ou Angleterre, avec autant de morts, et qu'en revanche, en Allemagne, il y ait autant de gens contaminés quasiment, mais moins de morts?
Eh ben, ça aussi, encore une fois, c'est difficile à analyser, parce qu'en fait, après, il faut comparer aussi les moyens qui sont mis en place, forcément, aussi, de protection et d'anticipation. Et après, sur l'évolution humaine du virus, encore une fois, comme je l'ai dit, on a vraiment du mal à identifier. Alors, on connaît l'identité du virus, mais vraiment, sa façon de se dégrader, j'allais dire, dans le corps humain, ça reste assez complexe. Et donc, peut-être qu'il y a plein de critères qui font qu'à des endroits, c'est moins grave qu'à d'autres. Enfin, je ne sais pas, j'ai du mal à l'expliquer, en vérité.
Ok. T'es comme nous, alors,
ouais, sur ce sujet. Après, okay. on peut voir le manque de moyens, par contre, sur les lits de réanimation.
Oui,
là,
ça.
Forcément, bah, les hôpitaux qui ont vraiment réduit leurs moyens et qui sont en manque de lits de réanimation, ils se retrouvent dans des situations vraiment dramatiques. Et ceux qui ont pu compter sur des moyens qui existaient déjà et même les renforcer, un peu comme l'Allemagne. Hein. L'Allemagne
oui,
a beaucoup plus de lits de réanimation que nous, quand même.
Oui.
Donc, ça a pu jouer aussi.
Oui, c'est des choix politiques qui ont été faits depuis, comme je le disais c'est tout
ça.
À l'heure, ouais, depuis 15 ans, là, qui font qu'on se retrouve dans une situation pas tout à fait digne d'un pays qui est la 6e puissance économique du monde, je crois. Hein.
Oui, c'est ça.
Ouais,
voilà. Et moi d'ailleurs, moi j'invite tous les gens justement, parce que là c'est ce que j'explique, hein, il y aura un après, mais l'après, il faut le construire et l'intellectualiser, j'allais dire, dès à présent en fait. Et il y a beaucoup de personnel, justement, j'ai des retours personnels qui sont beaucoup plus sensibles à l'aspect politique des choses quand j'essaie de leur expliquer, puisqu'en fait, c'est très compliqué quand on fait du syndicat de dire aux gens que quand même, on est obligé d'avoir, non pas de faire de la politique, c'est-à-dire moi, j'ai pas de mandat politique, mais je fais une analyse politique, parce que si on fait pas d'analyse politique, on peut pas trouver de solution collective pour améliorer les conditions des salariés et les conditions des hôpitaux publics. Donc, et je trouve que les gens sont aujourd'hui plus attentifs justement à cet aspect politique et j'espère bien qu'ils le comprendront et qu'ils agiront pour qu'on puisse justement peser pour avoir une vraie politique de santé publique, comme je dis, avec des objectifs de santé publique et pas des objectifs de réduction des dépenses de santé, parce que c'est vraiment deux choses à l'opposé, quoi.
Parce que c'est ça, c'est comment arriver à se projeter, alors qu'on est encore, enfin avec ce que tu dis, on a l'impression qu'il y a encore une urgence sanitaire, une urgence, enfin voilà, du quotidien, bah
après,
pour récupérer plein
après,
de...
La meilleure façon de se projeter, de toute façon, c'est pour ça que aussi elle revient rapidement. C'est qu'au CH du Forêt, on avait déjà un gros problème de déficit, en fait, de ce qu'eux appellent le déficit. Et ce que moi, je considère comme du sous-financement, qui a traduit justement un manque de moyens. Et qui est lié directement à l'activité. Puisque, encore une fois, vu qu'on est financé à l'activité, dès que l'activité baisse, eh bien, forcément, on perd des recettes et on crée un déficit. Et là, justement, la situation, comme je vous disais tout à l'heure, du fait qu'on a annulé des consultations, reporté des hospitalisations, de la chirurgie programmée qui rapporte beaucoup d'argent, j'allais dire, et ben du coup leur système il est même plus tenable, on peut même plus s'appuyer dessus, à tel point qu'ils nous ont dit que le futur plan de retour à l'équilibre qui nous était destiné était mis de côté purement et simplement parce qu'en fait il correspond plus à la situation, quoi. Si aujourd'hui on fait un bilan financier, on avait déjà des problèmes de déficit, de manque de ressources après la crise, mais je n'ose même pas imaginer ce que ça va être. Donc, on ne pourra même plus s'appuyer sur ce cadre. Ce cadre-là, il est dépassé. Donc, et après, dans le quotidien, mais justement, ça va être... là, il y avait une inquiétude, nous, sur le service de pédiatrie, puisqu'on avait redéployé, comme je vous disais, des gens dans les services Covid, et on avait beaucoup réduit l'activité de pédiatrie, tant et si bien qu'on avait fermé le service de pédiatrie. Et donc, les gens commencent à s'interroger, est-ce que ça va réouvrir? Donc, nous, on a rencontré notre nouveau directeur lundi, justement, puisque aussi, on a cet inconvénient, j'allais dire, c'est qu'on a dû changer de direction en pleine crise, puisque notre directeur, l'ancien directeur, était en retraite, normalement, il avait fait du RAB, j'allais dire. Et donc, un nouveau directeur a été nommé cette semaine, et donc, on lui a posé la question pour rassurer les hospices, et lui nous a dit que non, qu'il n'était pas question de fermer la pédiatrie, puisque la pédiatrie, c'est un des éléments essentiels du pôle mère-enfant, puisque si on n'a pas de pédiatre, on ne peut plus faire d'accouchement. Donc, c'est vraiment très bien. Mais voilà, après, c'est tout ça, toutes ces réalités qui reprennent le dessus, j'allais dire, qui permettent de se poser les questions et de se dire, ben, oui, vous voyez, si on veut changer les choses, maintenir un vrai hôpital de proximité, on a intérêt à réfléchir collectivement sur les aspects politiques, comme je vous le disais tout à l'heure.
Oui.
Sans forcément adhérer à un parti en défendant une vision des choses et une vision des hôpitaux de proximité notamment. Que nous, c'est ce qu'on défend en partie.
Tout à fait. Tu disais que vous aviez changé de directeur. Juste à titre d'information, je voulais savoir, ce directeur, sa formation, est-ce qu'il vient du milieu médical ou scientifique, recherche ou est-ce que c'est l'économie?
Bonne question. Alors, on lui a pas posé la question directement, mais la plupart du temps, les directeurs ont plutôt une formation administrative, plutôt que médicale. Ça peut arriver qu'ils relèvent du médical aussi, j'imagine. Hein. Il y en a peut-être certains qui ont commencé leur carrière en aide-soignant ou infirmier, je sais pas. Mais en tout cas, en fait, ce qu'il nous a dit, c'est que c'était en intérim, c'est-à-dire qu'en fait, il a pris la place parce que personne ne la voulait. Hein. Il faut bien être honnête. Encore une fois. On paye notre situation dramatique financièrement et là c'était marrant parce que d'ailleurs vu qu'il vient, en fait il vient du Nord, donc il a connu des situations de fusion d'établissements et de rationnement des moyens, j'allais dire, mais lui il s'est vraiment interrogé sur notre fusion, hein, parce que nous le centre hospitalier du Forêt c'est la fusion du site de Feur et du site de Montbrison, et quand on en fait le bilan aussi bien d'un point de vue de la coopération réelle entre les équipes, entre la volonté de le faire aussi, de fort et de nombreuses, et le résultat que ça a donné, il s'interroge vraiment, il dit, mais qui voulait faire cette fusion? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que personne n'a envie de travailler l'un avec l'autre, quoi, quelque part. Et tout ça parce que ça peut être, en fait, moi-même qui suis stéphanois d'origine, j'habite à Montbrison depuis 2011, j'ai compris rapidement qu'il y avait une rivalité entre les deux communes, déjà, et une rivalité historique, en plus. Et après, la stratégie de fusionner, de toute façon, c'était pour masquer justement les problèmes de déficit qu'on créait déjà, puisqu'à l'époque, on avait déjà réduit les budgets de financement de la santé. Et donc, en fusionnant des établissements, ça permettait de pouvoir faire des économies d'échelle, comme on dit, c'est-à-dire de supprimer, au lieu d'avoir deux services, un sur chaque site, on n'en garde qu'un, par exemple. Sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que l'activité, par exemple, nous, sur le site de Feur, on a fermé beaucoup d'activités qui, soi-disant, auraient dû aller à Montbrison. Mais sauf que les gens, ils ont le choix d'aller là où ils veulent. Et en fait, toute l'activité qu'on perd sur un site, on la reporte pas comme ça, la petite baguette magique, sur l'autre. Et on en a perdu beaucoup. Donc.
Bon. Ben. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, ben, tout à l'heure, on parlait d'argent, etc. Bon, même si il continue sur la ligne de réduire l'argent pour tout un tas de choses comme la recherche, etc. Par contre, il annonce beaucoup de millions et de milliards pour soutenir des entreprises. Donc, dire que l'argent existe, après, il faut savoir où il est placé. Et ça, peut-être que... la population, justement, avec cette crise, aura compris effectivement ce que tu disais, qu'il y a un rapport politique à voir.
Et sur ce rapport...
Oui,
pardon.
Après, et puis en plus, c'est toujours pareil, les annonces où on annonce des millions, pour le commun des mortels, j'allais dire, c'est compliqué à comprendre. En fait. Parce que déjà, quand on gagne 1200 balles par mois, on a du mal à s'imaginer ce que représentent les millions qu'on nous présente. Ouais. Nous, on nous a fait le coup plusieurs fois à l'hôpital, et dernièrement, c'était d'ailleurs marrant la façon dont ça s'est fait finalement, puisque suite aux nombreuses grèves qu'on a fait, on nous a annoncé 500 millions d'euros d'aide en fait. Mais sauf que nous, on contestait le fait qu'on devait faire 800 millions d'euros d'économie. Donc on voit bien là encore que voilà, quand on nous dit, on conteste 800 millions d'euros d'économie, on nous dit bon, ben on vous donne 500 millions, donc en gros, il vous reste 300 millions d'euros d'économie à faire, quoi. Mmh. C'est ça que nous, on comprend. Et c'est pas tout le monde, quelqu'un qui va dire dans le média, justement, le ministre annonce 500 millions d'euros pour la santé, et quand nous, la CGT, le lendemain, on est encore dans la rue à gueuler, il y a des gens qui vont dire, mais qu'est-ce qu'ils ont? On leur donne 500 millions, et ils sont encore... Et au niveau plus élevé, ben là, c'est encore pire, parce que comme tu le dis, après, je veux pas aller dans le détail, parce que c'est beaucoup plus compliqué et éloigné de ce qu'on parle de l'hôpital, mais... le raisonnement, justement, c'était un peu comme on a fait en 2008. Là, on est en train de renflouer le système et de renflouer les banques, simplement.
Oui.
Pour éviter que tout s'effondre, parce qu'on est prisonnier de ce système et qu'on ne sait plus comment en sortir, en fait. Puisqu'on n'a plus délégué aux puissants banquiers et que, ben voilà, maintenant, ils ont la main sur l'économie, quoi, en fait.
Et dans cette optique de l'après, c'est peut-être un peu prématuré, mais est-ce qu'il y a d'autres corps de métiers qui sont touchés, notamment dans la fonction publique, dans l'enseignement, qui se posent des questions? On parlait du 11 mai, enfin, il y a des liens, j'imagine, entre vous, de ce que vous pouvez percevoir dans le milieu hospitalier, les enseignants qui sont susceptibles de se retrouver avec les élèves, plein d'autres emplois, souvent ceux qui s'en sont pris plein la gueule depuis des années. Tu sais, s'il y a déjà des liens, il y en a eu, j'imagine, pendant la grève des retraites, pendant enfin tout ça, mais là, précisément, sur est-ce que ça resserre des liens entre ces...
Non, en fait, le problème, ce qui est très compliqué, alors justement, ce que tu dis, nous, au niveau de la CGT, on le fait régulièrement, puisque justement, on est structuré en fédération, justement, interpro, et donc on a régulièrement des réunions entre nous à la Bourse du Travail. Mais là, la situation de confinement a fait aussi qu'on se retrouve un petit peu en difficulté pour pouvoir communiquer comme d'habitude les uns avec les autres. Mais c'est un peu plus compliqué, mais ça continue, oui, les gens continuent à s'interroger dans chaque secteur. Et on essaie de mettre en commun tout ce qu'on peut, puisque les inquiétudes, de manière générale, elles concernent tout le monde. C'est-à-dire, oui, c'est le déconfinement. Quelle stratégie on a dans le déconfinement? Et après, sur l'aspect politique, quelle stratégie on a pour répondre à cette nouvelle ère, puisqu'en fait, on rentre dans une nouvelle ère, à mon sens, justement.
Bien, bah, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou...
Je voudrais vous raconter un petit truc marrant qui peut finir quand même, qui est un petit peu lié à la politique, parce que je ne crois pas que je vous en ai parlé la dernière fois. C'est qu'on avait eu notre député, justement, de notre circonscription, M. Borowczyk. Je ne sais pas si je le dis bien. Mais donc, il a eu la gentillesse de nous offrir de la fourme de Montbrison, en fait. Il a offert 100 kilos de fourme de Montbrison au personnel et à tout le monde, avec un joli courrier, justement. Et alors, autant nous apporter un petit bout de fromage, c'est sympa. Parce que, ah. En plus, tu te dis que quand tu manges un bout de fourme, forcément, après, tu vas respecter la distanciation sociale, tu vois, et parler moins près de tes collègues. Mais le plus marrant, c'était surtout le courrier. Parce que le courrier, en fait, nous disait que monsieur le député, En Marche, hein, donc je précise, allait continuer de me donner des moyens à l'hôpital public, allait continuer à se battre contre la tarification à l'activité. Donc moi, quand j'ai vu ce courrier, ben oui, je me suis dit que j'avais affaire à un extraterrestre, simplement, parce que j'ai pas vu aucune mesure qui améliorait les moyens pour l'hôpital public, ni qui mette en cause la tarification de l'activité. Et donc, on lui a rappelé gentiment, ce monsieur député fournisseur de fromage, qu'il avait voté quand même, lors de la loi de financement de la sécurité sociale, pour les mesures d'économie et les fameux 800 millions d'euros d'économie sur les hôpitaux publics. Au départ, c'était 4 milliards d'euros d'économie sur l'ensemble de la santé, en fait, dont 800 millions d'euros. Et donc aujourd'hui, ben voilà, en fait, moi, on avait diffusé un tract, en plus, je me souviens à cette époque du vote de l'ONDAM, justement, à l'automne, en mettant la photo des députés, justement, en montrant à tous nos salariés quel député a voté quoi. Et donc les gens étaient déjà au courant. Donc quand ils ont reçu le fromage, moi j'ai ressorti le tract, je leur ai dit, vous n'avez pas oublié le fromage que vous mangez, comment il a été. Comment il en est arrivé là.
Bah, peut-être que la prochaine
fois. Donc là aussi, c'est juste pour dire justement que ça aussi, il faut arrêter l'hypocrisie politique. Ouais. Aujourd'hui, il faut que les responsables, ils ouvrent les yeux, qu'ils fassent le bilan de ce qui s'est fait et qu'on prenne de vraies mesures pour ne plus revivre tout ce qu'on est en train de vivre. Parce que comme tu le disais, en fait, on en est rendu à être un pays du tiers-monde en termes de santé publique. Quoi. Et on a besoin, puisque la situation actuelle, et ce sera mon mot de conclusion, la situation actuelle démontre qu'en fait, sans un système public hospitalier fort, il n'y a plus d'économie qui est tenable, en fait, tout simplement. Donc, ils ont intérêt, pour notre économie, de donner des moyens à nos hôpitaux publics.
S'ils veulent que les gens travaillent, il faut qu'ils soient en bonne santé, c'est ça, en gros.
Voilà, c'est ça. C'est
bon,
ça.
Gageons que votre député, la prochaine fois, va vous offrir de l'ail. C'est un bon effet pour la distanciation aussi.
Oui, c'est ça. Voilà, et... il aurait pu aussi nous faire le vin rouge qui va avec. Hein,
ah, oui. Bien. Oui, ben, c'est bien. Ben, écoute, je te remercie en tout cas de toutes ces informations. Et puis, ben, en tout cas, on est toujours là. S'il y a quoi que ce soit, si tu as quoi que ce soit à nous dire, nous demander, etc., c'est facile. 07 54 10 72 59. Et voilà. En tout cas, merci.
Merci beaucoup.
Et puis, à bientôt, j'espère, pour nous tenir au courant.
Bon
courage à vous.
Et puis, vive la radio libre.
Merci.
Ciao.
Salut.